Mémoire vive,
présentée par Irène Omelianenko
et préparée par Rachel Rimer. Une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour, nous allons évoquer ce dimanche une exposition inaugurée le 22 septembre au Musée d'art et d'histoire du judaïsme, 71 rue du Temple à Paris. Exposition consacrée à l'œuvre de Félix Nussbaum. Né en 1904 en Allemagne, Félix Nussbaum s'initia à la peinture en Allemagne puis en Italie. Dû émigrer en Belgique, fut capturé par la Gestapo, déporté à Auschwitz le 31 juillet 1944 et assassiné. Félix Nussbaum avait écrit « Si je meurs, ne laissez pas mes peintures me suivre, mais montrez-les aux hommes ». La première exposition eut lieu en 1955 dans la ville d'Osnabrück, en Basse-Saxe, puis il y eut des expositions aux États-Unis et en Israël. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'une rétrospective est proposée en France. Et pour dire la vérité, le contact avec cette œuvre est une aventure bouleversante. Félix Nussbaum est le peintre impitoyable de la destruction, destruction des corps, destruction des familles, destruction des êtres. Que ce soit ses autoportraits ou le tableau sur le camp français de Saint-Cyprien, le peintre affronte l'horreur en pleine conscience hallucinée et nous entraîne dans un univers cruel et macabre, avec comme seules armes la peinture. Pour nous aider à comprendre cet univers, nous avons invité Laurence Sigal, directrice du Musée d'art et d'histoire du judaïsme et également commissaire de cette exposition. Bonjour Laurence Sigal.
Bonjour.
Quels sont les chemins qui vous ont conduit vers cette œuvre incroyable, totalement inconnue, de Félix Nussbaum ?
J'allais dire mon métier de conservateur de musée et de musée juif. La première exposition importante dont j'ai eu connaissance, en fait, c'est l'exposition de 1985 faite au musée juif de New York, alors qu'on vient d'achever, j'allais dire, l'essentiel de la redécouverte de l'artiste, sa ville d'Osnabrück, sa ville de naissance. À travers quelques personnalités du musée d'histoire, avait mis en place la collecte et la recherche d'œuvres de Félix Nussbaum. Et le musée juif de New York a proposé en 1985 une première rétrospective, alors que la connaissance de l'artiste n'était pas balbutiante, mais en tout cas très incomplète. Et donc ce catalogue m'arrive entre les mains très tôt, dès je pense 1988, quand je commence à travailler au projet du musée à Paris. Et en fait, en 1998, alors que le musée d'art et d'histoire du judaïsme s'ouvrait à Paris, Osnabrück a inauguré un musée monographique consacré à Félix Nussbaum. Alors il faut s'arrêter un instant sur ce musée, parce que c'est le premier bâtiment construit par l'architecte Daniel Libeskind. Alors depuis, nous connaissons Daniel Libeskind parce qu'il a construit ce faramineux monument de mémoire qu'est le musée juif de Berlin. Il avait remporté le concours pour la reconstruction des deux tours à New York. Entre-temps, il a construit différents bâtiments, souvent à thème juif. Et le musée qu'il construit pour Osnabrück est son premier acte architectural. Et tout ce qui sous-tend cette architecture très symbolique se retrouvera également à Berlin. Donc en 1998, le musée d'Osnabrück est inauguré et il est candidat, comme notre musée pour la France, au prix européen des musées. On est sélectionné l'un et l'autre pour un prix qui est donné chaque année par l'Europe. Alors, ni l'un ni l'autre n'avons eu ce prix, mais en tout cas, ça m'a donné l'occasion de faire la connaissance de la directrice qui avait porté ce projet de musée, Inga Jehner, et on s'était dit qu'on ferait une exposition. Donc, c'est une affaire qui traîne depuis longtemps, si je puis dire, et qui n'avait pas été mise en œuvre parce que les musées monographiques sont dans de grandes difficultés quand ils doivent se dessaisir des collections. Et puis, plus récemment, il y a 3 ans, elle a conçu une exposition très imposante, importante, pour laquelle nous l'avons beaucoup aidée, sur les traces de l'identité juive en art. Et j'allais dire presque par gratitude, elle nous a proposé de faire une exposition importante en France, ce qui, vous l'imaginez, était pour moi l'accomplissement d'un très ancien désir.
Alors, pour parler aux auditeurs, aux visiteurs de Félix Nussbaum, vous avez fait le choix d'une affiche assez surprenante. Avant qu'on ne rentre, puisque c'est quand même très important, qu'on ne rentre après dans l'histoire de Félix Nussbaum et des tableaux qu'il nous propose. Vous proposez une affiche qui est une espèce de coup de poing dans le paysage publicitaire, par exemple, qu'on voit dans le métro.
C'est une affiche forte, dure, qui dit sans embâche de quoi on va parler, mais qui dit aussi magnifiquement la qualité de la peinture dont il est question.
Décrivez-nous cette affiche, Laurence Sigal.
Alors en fait, c'est un détail d'un autoportrait dans le camp que Félix Nussbaum peint après son internement à Saint-Cyprien. Donc il est livré avec les ressortissants allemands par la Belgique en mai 40 et déporté dans un camp dans les Pyrénées, qui est le camp de Saint-Cyprien, où sont internés des ressortissants du Reich. Il va s'en échapper avec une petite rue sur laquelle j'ai peut-être pas besoin de revenir. Et retourne à Bruxelles, où il était déjà avant 40. Et dès lors, sa peinture ne va plus quitter cette obsession de la fin attendue. Il sait très bien ce qui va arriver, et il le sait, j'allais dire, depuis 1933. Et donc c'est un autoportrait, de trois quarts, avec un effet de clair-obscur qui est clairement tributaire de la peinture nordique. Et dans l'arrière-plan, il y a d'une part à gauche un homme recroquevillé, pensant, assis à une table, et à droite, un petit bonhomme décharné, à peu près nu, qui enjambe un tonneau qui, pour toute personne avertie, est forcément une latrine. Alors, ce portrait est fascinant parce que le regard de l'artiste inquiet, accusateur, son visage incroyablement dessiné, le béret du peintre qui ne quitte jamais quasiment. C'est une puissance d'évocation très forte. Et ce petit personnage-là, le signal, le rattache à, j'allais dire, à la fin de l'histoire, mais le rattache aussi aux visions d'apocalypse et d'horreur qu'on trouve dans la peinture de Jérôme Bosch, par exemple, ces visions de l'enfer. Donc il y a là beaucoup de choses qui disent le peintre, sa conscience hallucinée, comme vous le disiez bien, et puis son rapport à l'histoire de la peinture.
Alors vous avez construit cette exposition d'une manière quasiment biographique. Quand on rentre dans le musée, les premiers tableaux sont les tableaux qu'on peut dire du temps d'avant, avec les parents de Félix Nussbaum, un voyage, un autoportrait qui va être essentiel dans l'œuvre de Félix Nussbaum, qui est quelque chose qui nous permet de lire sa vie. Alors ces premiers temps, qu'est-ce qu'ils nous disent ces premiers tableaux? Ils nous disent des influences, ils nous parlent de Van Gogh un peu, on sent le peintre qui commence avec déjà un style, une force. Ses parents sont hiératiques, sont finalement mis presque à distance. Il y a un très beau tableau aussi dans la synagogue, mais c'est le peintre des débuts, c'est le peintre qui ne sait pas encore peut-être, qui ne pressent pas le chemin terrible qui l'attend.
Alors vous dites beaucoup de choses importantes. D'une part, l'hyperprésence des autoportraits dans l'œuvre de Nussbaum, et je dois dire que notre choix... Je dis « notre » parce que c'est une exposition que nous avons élaborée avec ma collègue Nathalie Azan-Brunet, a suivi ce fil, enfin c'est en tout cas le fil de l'autoportrait et l'une de nos directions majeures, le fil aussi de la narration autobiographique parce que l'artiste l'a revendiqué. Et puis aussi, je crois qu'il était important, dans la phase de la jeunesse, de présenter en tout cas deux tableaux. Un qui est la peinture intitulée « Dans la synagogue », où là encore il a peint son autoportrait puisqu'il se positionne lui dans la synagogue d'Osnabrück, inaugurée en 1906, détruite pendant le pogrom de la Nuit de Cristal. Et puis une autre peinture très très déroutante, où l'artiste s'est figuré de face, en train de peindre, mais empêché de peindre par un personnage barbu, revêtu d'une robe de mariée, pendant que trois hommes, eux aussi en robe de femme, ricanent dans le dos, enfin, en tout cas, forment des figures inquiétantes. Donc là, on a deux peintures où frontalement, l'artiste va interroger la signification que peut avoir pour lui le fait d'être juif par rapport au fait qu'il est un artiste. Et ma foi, ça n'est pas commun dans l'art du XXe siècle. Ça n'est pas commun parce que on sait, on a dit, l'irruption massive de juifs d'Europe de l'Est dans le paysage de la peinture moderne, l'arrivée à Paris, l'école de Paris, etc. Et souvent, ce sont des artistes qui vont, non pas nier, mais dénier, ou en tout cas se détourner du questionnement sur la signification d'être un artiste juif. Et là, l'artiste pose cette question. Il se positionne par rapport à ses parents, qui ont un rôle important dans sa peinture, puisque son père, qui est un bourgeois allemand, industriel, bien établi dans cette ville d'Osnabrück, il faut dire aux auditeurs qui n'ont sans doute jamais entendu ce nom, que c'est une ville qui est en Saxe, pas très loin, même très près de la ville de Münster. Il a un père qui va l'encourager à la peinture, pendant que sa mère est une femme probablement plus réservée, plus distante et moins empathique à l'égard de ce fils. Vous posiez une autre question, enfin, vous évoquiez une autre question, qui est cette île? Non, évidemment, non, en 1928, en 1926, il ne sait pas, mais il y a ce caractère marginal de l'artiste. Nussbaum incarne parfaitement cette conscience en marge de la société de l'artiste. Et en particulier en Allemagne, dans une Allemagne de crise qui est déchirée par des très fortes tensions politiques, par l'ébranlement total que va constituer dans un premier temps la défaite, je parle de la défaite de 1918, puis la crise de 1929 qui va faire vaciller complètement la société allemande, la fragilité de la République de Weimar, l'émergence d'avant-garde extrêmement critique par rapport au pouvoir, à la société, par rapport à l'académisme aussi. Donc Nussbaum, il est tout ça. Il est un peintre moderne, il est dans son temps et il a cette dérision, cette insolence, comme vous le disiez, par rapport aux cadres sociaux, culturels et politiques de son temps. Donc il y a tout ça dans cette phase de jeunesse et une interrogation constante sur la configuration familiale, la configuration sociale, ce qu'est être artiste.
Alors durant le vernissage, j'ai suivi deux petites dames, une dame assez âgée, sa fille, qui regardait les tableaux et qui les commentait. Et elles ont été un peu scandalisées par le tableau où on voit Félix Nussbaum et Felta Platek. Elle est nue, avec un collier autour du cou. Lui a gardé son pantalon qui est légèrement déboutonné. Moi, je trouvais dans ce tableau quelque chose de très touchant en réalité. L'artiste mis à nu au fond et puis nous livrant ces deux êtres qui allaient vers leur fin au fond. Et ces femmes étaient scandalisées, elles ne comprenaient pas ce que ça faisait dans l'exposition. Et j'aimerais vous poser la question, Laurent Sigal, de comment vous l'avez construit cette exposition et comment à ce moment-là ce tableau arrive. Et qu'est-ce qu'il vous a dit ?
On a construit une exposition de peinture, on n'a pas construit un livre d'histoire. Et ces dames ont dû se trouver l'issue de l'histoire personnelle de Nussbaum trop âpre, trop catastrophique pour supporter de voir un tableau nu. Mais c'est mal connaître l'histoire de la peinture. C'est impossible de penser peinture sans penser motif des nus, motif du couple. Là, pour moi, c'est évidemment c'est Arnolfini et sa femme déshabillée, mais c'est encore une fois un immense artiste qui maîtrise parfaitement les codes, la composition, l'histoire de la peinture, et qui sait qu'être peintre, c'est peindre la peinture en acte. Et cet autoportrait de couple, où il se représente avec sa femme, Felka Platek, qui est une juive polonaise, qui l'épouse tôt, j'allais dire, aux grandes dames de ses parents, qui sont des véritables juifs allemands, qui regardent avec quelque mépris ces juifs venus de l'Est, ces « Ostjuden », comme on disait en Allemagne. Elle est aussi la marque de son... Cette épouse est la marque de son non-conformisme. Je ne dirai rien des relations entre lui et son épouse, elles nous sont mal connues. En tout cas, il y a la référence à l'histoire de la peinture et il y a ce moment aussi, vous l'avez évoqué, c'est mon cœur mis à nu, c'est-à-dire moi dans la nudité, le destin du peintre dans sa nudité avec son épouse, puisqu'ils sont collés l'un à l'autre dans la clandestinité. Elle a des relations difficiles avec ses parents et fera en sorte que les parents restent en Hollande plutôt que de les rejoindre à Bruxelles. Donc il y a cette histoire du confinement qui va marquer vraiment l'œuvre de Nussbaum avant 40, avec cette idée des peintures en impasse, des rues qui ne mènent nulle part, de ces murs qui sont des murailles infranchissables. C'est une thématique extrêmement forte dans la peinture de Nussbaum. Et là, il s'inscrit dans l'histoire de la peinture ancienne, je l'ai dit, avec Arnolfini et sa femme, et également dans l'histoire de la peinture qui lui est contemporaine, avec, on a mis en regard, c'est une façon de sourire, la même peinture avec des mannequins. Mais rappelez-vous, Felka Platek, qui porte toujours dans les peintures de Nussbaum un collier, l'emblème de sa féminité, écrase de son pied, enfin de sa chaussure, puisqu'elle est nue, les pieds mis à part, elle écrase le pied de son époux, qui lui est pieds nus, qui a gardé son pantalon, et elle porte un rameau tête en bas. Et c'est la fin de l'espoir. Enfin, il y a un caractère extrêmement désabusé dans le geste du peintre. C'est-à-dire, oui, je peins, je sais encore quel est mon métier, et il ne me reste plus que ça. C'est qu'ils sont là, dans le nu de la vie.
Alors, vous nous rappeliez cet itinéraire de Félix Nussbaum qui va au camp de Saint-Cyprien, qui doit être livré au Reich et qui, en fait, va se sauver à Bordeaux, puis va vivre une vie complètement cachée après, pendant plusieurs mois, plusieurs années, et où il va peindre des peintures abstraites, presque, enfin, des natures mortes. C'est comme si sa pensée, à ce moment-là, ne mettait plus les hommes, ou presque. Les objets sont plus importants que les hommes dans ces tableaux.
Alors, vous faites allusion à un espace de l'exposition où, il est vrai, nous avons présenté quelques natures mortes parmi une production plus importante encore. Et la première peinture dans cette section-là comporte sa propre légende, puisque sur une table où Nussbaum a installé quelques objets, un flacon, le chiffon du peintre qui est son refrain, sa marque de fabrique, il y a un livre sur lequel il a écrit La nature morte de Félix Nussbaum, comme si c'était à la fois le manuel du peintre, c'est-à-dire son ouvrage théorique en tant que peintre, mais également son autobiographie. Moi, comme homme, je suis mort. Voilà ma nature d'homme mort. Mais il ne peint pas que ça. Alors, c'est les vertus et les misères d'un accrochage. On a conçu cette section, mais il fait cela en même temps que les deux portraits inoubliables, faramineux, de l'artiste dans l'atelier et du juif pourchassé avec l'étoile jaune. Donc, vous avez tout à fait raison de mettre cela en relief, parce que les natures mortes et les objets sont un sujet par dépit, un sujet très fortement porteur aussi du confinement, de l'histoire de la peinture encore, parce que je pense en particulier à cette nature morte à la statue africaine, qui est évidemment une référence au primitivisme qui a porté le cubisme et qui a apporté, enfin, le cubisme de Picasso, et également l'expressionnisme de ses presque contemporains que sont Kirchner ou Nolde. C'est toujours de la peinture savante. C'est ça qui est incroyable avec Nussbaum. C'est à la fois une narration autobiographique, une grande œuvre, et une œuvre qui peint l'histoire de la peinture. Donc il ne faut pas oublier ça. Il y a cette inscription dans le post-cubisme de quelques-unes de ces natures mortes.
Et puis, on arrive à la fin de l'exposition. finalement dans un endroit dont on va avoir bien peu de temps pour parler, qui en même temps est tellement le paradigme de la Shoah, je trouve, que peut-être ce n'est pas la peine de beaucoup en parler. Il faut aller voir ces tableaux. Il y a des scènes de squelettes qui jouent de la musique. Il y a l'autoportrait, justement, de Félix Nussbaum avec l'étoile jaune. On rentre là dans l'indicible. Et on se dit, mais c'est quelle chance que la peinture permette de le dire en même temps, cet indicible.
De le dire encore. Moi, je voudrais, si vous le permettez, m'arrêter sur le dernier tableau, qui est le triomphe de la mort, qui est, j'allais dire, un condensé incroyable, incroyable, de toute la leçon de Nussbaum à travers les différentes décennies de sa peinture, mais qui dit une chose extrêmement importante, c'est que la Shoah, c'est l'anéantissement de la civilisation humaine, ça n'est pas l'anéantissement seulement des Juifs. C'est-à-dire, lui, comme artiste juif pourchassé, est capable de comprendre que c'est la ruine du monde, que c'est l'apocalypse. C'est-à-dire qu'il va dépasser son propre être et sa propre destinée tragique, la destinée des siens, pour comprendre qu'à travers la mort des Juifs, c'est le monde qui s'est lui-même condamné.
Pour voir les œuvres de Félix Nussbaum, il suffit de se rendre au Musée d'art et d'histoire du judaïsme, 71 rue du Temple à Paris, jusqu'au 23 janvier. Il y a de nombreuses manifestations, des visites guidées, hommages. Le 20 octobre à 19h30, une conférence de Philippe Dagen. Le 12 décembre, un après-midi d'études intitulé « Peindre l'écroulement du monde ». Le 14 décembre à 16h au Musée d'art moderne de Paris, un parcours en écho au travail de Félix Nussbaum. Merci beaucoup Laurent Sigal d'avoir accepté notre invitation. C'était Mémoire vive, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah que vous pourrez retrouver sur le site de RCJ, www.rcj.info. Bon dimanche.